Une histoire particulière. 1787, la frégate de la Royal Navy, la Bounty, quitte l'Angleterre pour aller collecter des plants d'arbres à pin à Tahiti. Les plantes seront rapportées dans les Indes occidentales britanniques et serviront de nourriture aux esclaves. Promiscuité, manque d'eau et d'hygiène, rationnement alimentaire drastique, maladie, la vie à bord frôle l'enfer et les marins souffrent particulièrement. Après une traversée de près d'un an, le navire fait escale à Tahiti, mais les plants d'arbres à pin ne sont pas encore arrivés à maturité. Il faut attendre. Rien ne se passe comme prévu et le 28 avril 1789, une mutinerie éclate.
Monsieur Christian ! Les hommes sont armés, monsieur Christian !
Je suis avec vous !
Il y en a d'autres avec nous ? Très bien. Le navire est à nous, lieutenant.
Lorsque Bligh est tiré du lit à 4h du matin, qu'il est ligoté en chemise de nuit et amené sur le pont, ils étaient trois à être entrés dans sa cabine. Et Bligh, qui était proche de Fletcher Christian, lui dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et l'autre lui répond « Je suis en enfer. Sous-entendu, je comprends très bien que c'est une bêtise. Ça a été une escalade. Il y en avait même qui voulaient priver Bligh de tout dans la chaloupe. »
Brown, allez prendre mes cartes et mon sextant sur l'étagère gauche de ma cabine.
Les mutinés de la Bounty, second épisode. Tout ça pour ça. Séverine Cassard, Stéphanie Thomas.
Au petit matin du 28 avril 1789, la Bounty se situe au niveau des îles Tonga, dans le centre du Pacifique.
Corinne Rebaud, historienne.
C'est ce jour-là que une partie de l'équipage de la Bounty, avec à sa tête Fletcher Christian, vont prendre possession du navire. Ils vont aller réveiller William Bligh dans sa cabine au petit matin et lui signaler que désormais, il n'est plus le capitaine de la Bounty, mais au contraire, ce bateau est passé sous le commandement d'un groupe de mutins avec Fletcher Christian à sa tête. Et quand au petit matin, on le sort de sa cabine, on l'attache et qu'on lui dit que désormais, il n'est plus le capitaine, qu'il est un capitaine déchu, dans un premier temps, il n'y croit pas. Ensuite, il va essayer de raisonner l'équipage. Et là, les autres refusent. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tout va s'enchaîner. C'est-à-dire qu'on va descendre une chaloupe à la mer. On va y mettre, évidemment, William Bligh. Mais ce qui est notable, c'est qu'il n'y a qu'une dizaine d'hommes sur la quarantaine qui veut faire partie de la mutinerie. Ce n'est pas l'équipage dans sa totalité qui se mutine. C'est un tout petit groupe d'hommes qui sont allés chercher des armes dans la réserve et qui menacent tout le monde. Tous les autres qui ne sont pas dans l'esprit de la mutinerie veulent absolument suivre Bligh sur la chaloupe parce qu'ils lui sont fidèles et ils savent pertinemment que se retrouver à bord d'un bateau mené par des mutins, ça les conduira aussi à leur perte. Donc, un trop grand nombre d'hommes veut monter dans la chaloupe et il ne peut y avoir qu'une dizaine de personnes normalement à bord de cette petite chaloupe non pontée. Non ponté, c'est important, ça veut dire qu'il n'y a pas d'abri. Il y a juste des bancs, des rames, et puis c'est tout. Et donc, elle pouvait contenir entre 7 et 10 hommes, et au final, elles vont contenir 18. Et ils vont naviguer. Alors quand même, Fletcher Christian, qui garde quand même un certain respect pour William Bligh, va lui donner une boussole, un sextant, il va lui donner de la nourriture et de l'eau pour à peine 7 jours, et après, il faudra qu'ils se débrouillent. Et donc, on les laisse partir comme ça.
L'amiral Emmanuel Desclèves, Académie de Marine.
Le mutin, c'est celui qui s'oppose donc à la volonté du commandant, qui met en cause l'autorité du commandant. Et c'est ça qui est véritablement très grave sur les bâtiments de l'époque. le commandant est le seul maître à bord après Dieu. On considère que c'est absolument indispensable à l'accomplissement de la mission et surtout à la sauvegarde du navire et des équipages. Si vous voulez, ce point n'est discuté par personne, par aucune marine, et pas non plus d'ailleurs par les Polynésiens. Le commandant est le seul maître à bord après Dieu. Donc si on met en cause son autorité, on met en péril tout le monde. Et ça, c'est véritablement quelque chose qu'on ne pouvait pas accepter. Il faut comprendre qu'en mer, si vous voulez, le principe du commandement seul maître à bord après Dieu s'impose naturellement, surtout à cette époque. Il n'y avait aucune communication avec l'extérieur et tout le monde convenait qu'il fallait un seul commandant et qu'il ait des pouvoirs même exorbitants du droit commun sur tout son équipage.
Gardez la même direction, ouest-nord-ouest, monsieur Fryer.
Ouest-nord-ouest, commandant.
D'après mes calculs, le premier port dont nous puissions espérer de l'aide, c'est Timor, dans les Indes néerlandaises, à environ 3500 000 d'ici.
Bligh partait donc sur une chaloupe de 6,90 m avec 18 hommes, pas d'armes et pas de cartes.
Serge Dunis, anthropologue.
Avec seulement 5 jours de ration. Et Bligh se dit qu'il faut prendre la direction de la Grande Barrière de Corail, prendre la direction de l'Australie, 4500 km plus loin. Il a la carte des explorations de Cook en tête. Et après s'être revigoré en Australie sur la Grande Barrière de Corail, ils vont repartir pour Timor avec un peu de provisions faites sur place, avec des huîtres surtout. Et ils ont survécu parce qu'ils étaient capables d'attraper des oiseaux, un audi, c'est-à-dire une grosse hirondelle de mer, et puis 5 fous de bassin, on ne dit pas bassin là-bas parce que bassin c'est en Bretagne, des fous, qui s'appellent fous parce que on pensait que ces oiseaux gros comme des canards étaient fous de se poser sur les bateaux, les marins pouvaient les attraper, donc ils vont survivre grâce à ça. Mais c'était des nuits frigorifiantes, il pleuvait toute la journée. Bligh dira que c'est une aubaine parce que s'il y avait eu le soleil, ils n'auraient jamais survécu. Ils écopaient sans arrêt et ils vont quand même survivre.
Il avait fait le voyage déjà avec Cook. En plus, c'est un trajet pratiquement à latitude constante. C'est-à-dire que vous avez, à partir du moment où vous avez une hauteur du soleil à midi qui est pratiquement constante, donc d'un jour à l'autre, vous savez si vous êtes un peu plus au nord ou un peu plus au sud de la route que vous aviez prise au départ. Donc si vous voulez, je ne dis pas que c'est pas très compliqué, mais enfin, pour les Occidentaux de l'époque, c'est un très bon marin, indéniablement. Par rapport à la connaissance et aux capacités des Polynésiens,
Par rapport au Capitaine Bligh, quand la mutinerie s'est passée et qu'ils ont débarqué une quinzaine de membres d'équipage, il a pu naviguer, je dirais pas dériver, il a navigué parce qu'il avait quand même des connaissances de navigation.
Teiva Véronique, directeur d'école de pirogue à Tahiti.
Donc c'est vrai que vis-à-vis des Polynésiens, ce n'est pas un long voyage. Ils ont navigué jusqu'à l'île de Tafua au Tonga. Ils ont après rejoint l'île de Timor où ils ont rencontré d'autres navires anglais. Mais c'est quand même, pour moi, je vais dire que c'est quand même une prouesse parce qu'ils avaient une petite embarcation. Mais vis-à-vis des Polynésiens, c'est pas non plus extraordinaire puisque les Polynésiens, eux, savaient le faire, faisaient des plus longues distances ou des plus petites distances avec moins d'outils. Parce que à l'époque, le métal et les aimants n'existaient pas en Polynésie, donc pas de boussole et pas de sextant. Donc tout se faisait dans la tête des navigateurs, rien qu'en observant et en mémorisant les éléments. Hei po hei hei faore turiri O e shoa o taui here. Tout ce qu'on a autour de nous est un moyen de pouvoir naviguer. Donc quand on regarde autour de nous, on a l'horizon, on a les montagnes, le récif, l'océan, mais on a aussi le vent, les vagues, la houle, les nuages. On a les oiseaux à proximité des îles, on a les matières qui dérivent aussi à proximité des îles, comme des cocos qui pourrissent dans l'eau, des algues. Et en fait, le fait d'apprendre à observer les étoiles tous les soirs, à observer le soleil, la houle et le vent tous les jours, vont te permettre de pouvoir définir un cap grâce à ces éléments. Donc il faut imaginer que les Polynésiens, quand ils regardent autour de l'horizon, ben, en fait, c'est comme s'ils regardaient un genre de compas. Pourquoi ? Parce que chaque endroit qu'on va regarder autour de nous, c'est un compartiment qui a un nom. Donc une étoile va se lever, ce qu'on appelle dans un phare, dans une maison. Et quand tu vas définir un cap, donc si tu vas aller vers une île, par exemple, je ne sais pas moi, Huaine, ben Huaine est dans un autre phare. Donc entre l'étoile qui se lève et là où tu dois aller, il va y avoir un nombre de phares définis. Et ben tu vas pouvoir mesurer ces phares avec ta main. Donc, comme île connue, par exemple, on a Bora Bora, qui est dans la continuité de Huaine, qui est à peu près à 250-300 km de Tahiti. Donc, quand on devait aller vers Bora Bora, et ben, Bora Bora est dans un phare spécifique. Et une étoile ou le soleil va se lever dans un autre phare. Donc, on va mesurer le nombre de phares qu'il faut entre l'étoile ou le soleil et notre cap. Et ça se mesure avec notre main. Parce que notre main, on l'a calibrée pour que quand on regarde, on pose notre main à l'horizon, et ben, l'écartement entre deux doigts, ben, ça fasse un phare. Ça, c'est vraiment propre à chacun, puisque chacun a ses propres mensurations, quoi. On pourrait aussi définir la navigation ancestrale comme la navigation sensorielle. C'est le fait de ressentir. On mémorise le mouvement de la pirogue, on mémorise le son que fait le sillage, on mémorise le son que fait le gréement ou les voiles. On ressent toutes ces choses-là, on les intègre dans notre corps, dans notre mémoire corporelle. Et quand la pirogue change de cap, par accident ou parce qu'on n'est plus concentré, donc on va ressentir tout de suite quand ça ne va pas, en fait.
Pour l'occidental, surtout à cette époque, affronter la mer, on l'a dit tout à l'heure, si vous voulez, c'était un avant-goût d'enfer, donc on y allait. Depuis le début des grandes découvertes, il s'agissait d'aller franchir de nouveaux espaces qui étaient extrêmement dangereux, etc., etc. Donc on partait en position de défense et on partait dans un bateau qui était une sorte de forteresse sur l'eau, construite comme une forteresse, c'est-à-dire pour se défendre. Se défendre de quoi ? Se défendre des éléments. On avait peur de la mer et donc, naturellement, on ne savait pas nager. Ça montrait quand même un très grand courage, mais la mer était considérée comme complètement hostile. Chez les Polynésiens, c'est tout à fait l'inverse. La mer, c'est le cœur de leur civilisation. Dans les déclarations encore récentes des dirigeants polynésiens, dont d'ailleurs le président de la Polynésie française, devant les grandes instances internationales, ces gens-là disent « nous sommes l'océan ». Pour eux, la mer, les Polynésiens, la mer, c'est au contraire un océan d'îles. Donc on est dans l'échange, on est dans la circulation, on est dans le passage d'une île à l'autre. Donc la mer, c'est ce qui permet de rencontrer l'autre, c'est ce qui permet de découvrir, c'est ce qui permet de... Vous voyez, c'est un aspect complètement positif. On vit en mer. Le Polynésien de l'époque à Tahiti était quelqu'un qui passait certainement 80% de son temps sur l'eau, physiquement. Sur l'eau ou dans l'eau.
Nous avons 16 morceaux de porc, capitaine, 150 boules de pain, 38 gallons d'eau douce, 1 gallon de rhum. Nous avons également une boussole, un sextant, nous avons 7 sacs de marin.
Donc lorsque la chaloupe de Bligh s'éloigne,
Sylvie Largeau-Ortega, angliciste.
Fletcher Christian décide de s'installer à Tubuai, dans l'archipel des Australes, au sud de Tahiti. Et il entre dans la baie de Tubuai et est extrêmement mal reçu par les insulaires qui ont la connaissance de la dévastation qui peut s'en suivre du contact avec ce genre de navire. Donc, les habitants de Tubuai sortent avec leurs pirogues, confrontent ce navire. Le Bounty tire du canon, tant et si bien qu'il y a de nombreux morts et que la baie est aujourd'hui connue sous le nom de Bloody Bay, la baie ensanglantée. Le Bounty s'en va, toutes les personnes qui sont sur le Bounty à ce moment-là retournent sur Tahiti et décident de constituer deux groupes. L'un décide de rester sur Tahiti en sachant que c'est à Tahiti que les autorités britanniques vont venir les chercher en premier. Et l'autre groupe, mené par Fletcher Christian, décide de repartir à la recherche d'une île où ils seraient acceptés et qui serait hors des routes maritimes courantes. Cela va prendre un certain temps et ils vont finir par arriver sur Pitcairn, s'installer à Pitcairn.
Qu'est-ce que vous regardez, monsieur? La Terre. Elle est là. Mais elle ne devrait pas. Mills, Ron, venez avec moi.
L'île de Pitcairn, elle a été découverte en 1767 lors de l'expédition Wallis-Carteret. Et comme c'est le jeune hunier qui a à peine 15 ans, qui s'appelle Robert Pitcairn, qui va dire terre, eh bien cette île sera baptisée Pitcairn. Donc cette île est découverte, on va dire, aperçue, observée, notée, signalée sur une carte en 1767. Mais là, il ne faut pas perdre de vue qu'en ce temps-là, on navigue quand même déjà avec un sextant, mais on n'a pas de chronomètre de précision. Philippe Carteret n'avait pas un chronomètre assez précis. Il ne peut pas la placer en longitude, il ne peut la placer qu'en latitude. Alors, il va bien la mentionner sur le parallèle de 25 degrés de latitude sud où se situe Pitcairn, mais il fera une erreur. Il ne la placera pas de façon exacte en longitude. Résultat, Fletcher Christian mettra du temps à trouver l'île en naviguant sur le parallèle 25 degrés sud et il finira par la trouver et l'île est déserte et ils vont arriver à Pitcairn en janvier 1790. Là, ils découvrent une île rocheuse, inhospitalière, il n'y a pas de lagon, mais elle est verdoyante, elle ressemble à Tahiti et donc ils vont décider de s'y établir. Et ensuite, ils vont brûler le navire. Ça, c'est un acte tout à fait stupéfiant, mais qui a sa justification par le fait que si un navire, tel qu'un navire de la Royal Navy qui les rechercherait, passait à proximité de cette île, il verrait les mâts dépasser. Et donc, si on voyait des mâts, on se dirait il y a un navire et il y a des habitants, et peut-être que ce sont les mutins. Donc, ils décident de brûler le navire pour qu'on ne puisse pas les apercevoir depuis l'océan. Mais ils s'interdisent définitivement de pouvoir repartir. Et là, c'est un acte qui continue sur la même trajectoire que la mutinerie du 28 avril 1789. 23 janvier 1790, on débarque à Pitcairn, on brûle le navire, on ne pourra plus jamais quitter Pitcairn.
Une fois que la mutinerie a été connue, que Bligh est arrivé en Angleterre, a été jugé, parce que quand même il avait perdu un bateau de la Royal Navy, il a fallu aller récupérer ces mutins. On n'a pas fermé les yeux.
Non, on n'a pas fermé les yeux parce que, si vous voulez, c'était encore une fois remettre en cause tous ces règlements, etc. Il faut voir ce qu'était la marine britannique à cette époque et à d'autres d'ailleurs. C'était un élément majeur de la royauté. Donc la marine, c'était quelque chose de une institution considérable. Il n'était pas question de laisser tomber. Ça remettait en cause tout le système. Donc on n'a pas hésité à envoyer une frégate pour aller récupérer les mutins à l'autre bout du monde.
La Royal Navy envoie tout de suite un autre navire et ils sont persuadés que de toute façon, les mutins vont retourner à Tahiti. Parce que c'était une évidence, ils avaient tellement passé du bon temps à Tahiti que s'ils se mutinent au Tonga, ce n'est pas pour rester au Tonga, c'est pour retourner à Tahiti. Donc on arme un nouveau navire qui s'appelle la Pandora et à bord de ce navire, il y a le capitaine Edward Edwards qui est un capitaine d'une immense cruauté, bien pire finalement que William Bligh. On sait pertinemment qu'il est extrêmement dur, mais pour des mutins, on considère que c'est exactement ce qu'il faut.
Donc c'est la chasse à l'homme, en fait.
Voilà. Donc on envoie la Pandora, et la Pandora va arriver à Tahiti donc en 1791. Et quand Edward Edwards va trouver les mutins à Tahiti, il va encore sillonner longtemps dans toutes les îles du Pacifique parce que lui, ce qu'il veut ramener en Angleterre, c'est Fletcher Christian et le groupe de mutins actifs. Donc il va encore sillonner le Pacifique un certain nombre de mois et ne les trouvant pas, il renonce et il se dit « vaut mieux déjà ramener les 14, ça sera toujours ça ». Mais il est d'une grande cruauté parce que dès qu'il capture les mutins à terre, eh bien, il les enferme dans des cages en fer sur le pont qu'il a fait construire et ils vont rester là tout le temps. Sauf que la Pandora va faire naufrage sur la grande barrière de corail, donc au large de l'Australie. Et là, pendant le naufrage, il y a malheureusement des mutins enchaînés qui vont se noyer. Il ne fera rien pour les sauver. Il y en a certains autres qui arrivent à sortir des cages, mais il met tout en œuvre pour les récupérer. Donc en fait, il va en récupérer 10 sur les 14. Et ces 10-là, il trouvera moyen de les ramener en Angleterre et il les fera juger. Sur ces 10-là, il n'y en aura que 4 de pendus. Il y a un groupe qui sera acquitté pour vice de forme, etc. Bon, parce que parmi ceux qui vont être jugés, il y en a qui ne sont pas que de simples hommes d'équipage. Donc, ils vont utiliser leurs relations, ils auront de bons avocats et il n'y en a que 4 qui seront pendus.
Notre nouvelle patrie, les gars. La voici. Pitcairn.
Mais il n'y a pas de mouillage, on ne peut pas aborder.
C'est pourquoi je l'ai choisi. Une fois débarqué, il faudra rester là.
Mais ce rocher est bien isolé pour y mourir.
Mais il est suffisant pour vivre. Nous y trouverons du soleil, de la terre et de l'eau. Cette île sera un enfer ou un paradis selon ce que nous en ferons.
Sur l'île de Pitcairn, ils vont faire quoi? Ils vont reproduire ce que les Français faisaient à l'époque aux mêmes dates, c'est-à-dire l'Ancien Régime. Pire, ils vont reproduire la terreur. Les maîtres sont anglais. Les serviteurs, à votre avis, eh bien, ce sont les Polynésiens. Chaque anglais a bien sûr une compagne. Et les Polynésiens, eux, ils ont à se partager une femme pour deux.
Très très vite, les choses vont très mal se passer. Le groupe des 9 révoltés du Pohnpei qui se retrouvent à Pitcairn ont été coupables de traitements extrêmement abusifs envers les Tahitiens qui les avaient accompagnés.
Et au bout d'une année, les premières révoltes apparaissent. Parce que les Tahitiens ont consenti tous ces sacrifices de quitter leur île, de quitter leur milieu, de se retrouver sur une île déserte en plein milieu du Pacifique, avec des températures différentes, parce que 25 degrés sud, ce n'est pas 17 degrés sud de Tahiti. C'est quand même plus frais l'hiver, battu par les vents, beaucoup plus difficile, il n'y a pas de lagon, pour pêcher c'est compliqué, etc. Donc, ils ont consenti beaucoup de sacrifices, ils espéraient une vie meilleure, et au final, ils se retrouvent être les esclaves, enfin, entre guillemets, mais en tout cas, les serviteurs des mutins. Et ça, ils ne l'acceptent pas. Donc, ils vont commencer à se mutiner à nouveau, eux, contre les mutins, c'est-à-dire se révolter. Et les tueries vont commencer entre les Tahitiens et les mutins. Certains, parmi les plus durs, vont se mettre à fabriquer de l'alcool, fabriquer un alambic. Et là, ils vont devenir complètement fous. Il y en a un qui va se suicider après une crise de délirium tremens en se jetant d'une falaise. Ça devient le chaos absolu. Et au bout d'une dizaine d'années, donc il s'installe en 1790 et en 1800, il ne reste plus qu'un seul mutin. Tout le monde est mort. Fletcher Christian va mourir à peine 2-3 années après l'arrivée à Pitcairn. Alors, on est partagé. Est-ce qu'il est mort de désespoir? Est-ce qu'il s'est suicidé? Ou est-ce qu'il a été tué par les Tahitiens lors d'une rixe ou d'une de leur révolte? Tout est possible. Mais John Adams, qui sera le survivant, dira que c'est lors d'une escarmouche en 1793-94 que là, il aurait été tué avec un certain nombre d'autres Anglais. Bon, on est sûr de rien. On n'a pas sa tombe, rien du tout. Donc, voilà. Mais en 1800, il ne restera plus que John Adams et les femmes tahitiennes de tous ces hommes-là et tous les enfants qui sont nés de toutes ces relations. Et lui va devenir le patriarche et il va s'occuper avec bienveillance de toutes les femmes, de tous les enfants, de tout le monde. Et ce qui est assez piquant, c'est qu'il va, à partir de la Bible, il va leur apprendre les principes religieux. Donc, cet homme qui était un homme fait de sac et de cordes, un mutin, qui n'avait même pas déclaré son vrai nom sur le rôle d'équipage de la Bounty pour la Royal Navy, parce qu'il devait être déjà en délicatesse avec la justice en Angleterre. Donc, cet homme-là conduira en grande partie la mutinerie. sera le seul survivant après avoir tué tous les autres, évidemment, pour pouvoir rester en vie. Sauf son ami Jung, qui lui mourra d'une crise d'asthme en 1800, et c'était lui qui lui avait appris à lire et à écrire à partir de la Bible de la Bounty. Donc finalement, c'est John Adams le survivant, et il fera vivre tout son petit monde en bonne intelligence jusqu'en 1808, où un navire baleinier américain va passer par là, va découvrir cette île, et pensant qu'elle était inhabitée, voit quand même qu'il y a des feux qui apparaissent, et il va débarquer, et là il découvrira avec stupéfaction qu'il reste un seul homme adulte dans cette île, que c'est John Adams, et que c'est le dernier des mutins de la Bounty. Alors, lui, il le fera savoir en Angleterre, mais l'Angleterre n'armera pas une expédition pour aller récupérer un seul homme. Et il finira ses jours en paix, finalement, à Pitcairn, entouré des femmes et des enfants de la petite communauté.
Vous connaissez Corinne Ribou, cette île. Vous y êtes allée, c'est rare.
Oui, j'ai eu la chance d'aller à Pitcairn. C'est rare, puisque évidemment il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de port, il y a juste un tout petit quai, et on ne peut débarquer à Pitcairn que par mer calme, qu'avec des petites embarcations de type Zodiac ou des choses comme ça. Et oui, j'ai eu la chance d'y aller, et c'était une très belle expérience de découvrir le lieu où les mutins se sont trouvés et où ils sont allés.
Et vous avez rencontré des descendants des mutins ?
Alors, à Pitcairn, il n'y a quasiment que des descendants, enfin, pas que, mais en grande partie. Bon, moi, quand j'y suis passée, il y en avait une quarantaine. Et donc, des descendants de Fletcher Christian et des autres mutins avec les femmes tahitiennes.
Merci à Serge Dunis, Corinne Rebaud, Sylvie Largeau-Ortega, Teiva Véronique et l'amiral Emmanuel Desclèves. Avec des extraits des films Les Révoltés du Bounty de 1935 et 1962. Prise de son Stéphane Foulon, Noé Chaban. Mixage Éric Boisset. Attaché de production Sylvia Favre. Coordination Christine Bernard. Et qu'est devenu le capitaine Bligh ?
Alors, le capitaine Bligh, lui, retourne en Angleterre après avoir débarqué de sa chaloupe, et etc. Donc s'explique en Angleterre, passe en cour martiale, sera acquitté. Et puis on lui donne tout de suite une nouvelle mission à bord d'un nouveau bateau qui s'appelle la Providence. Et on lui demande de retourner à Tahiti, d'aller rechercher à nouveau des plants de l'arbre à pain pour aller les implanter aux Antilles, pour nourrir les esclaves, puisque c'était l'objectif initial de la mission de la Bounty. Et là, pour la petite anecdote, mais qui a quand même son intérêt, c'est que les esclaves n'en voudront pas. Ils ne mangeront pas du fruit de l'arbre à pain, donc tout ça, pour ça, on peut se dire, puisque finalement, il faudra quand même importer de la nourriture pour les nourrir, parce qu'ils ne veulent pas manger du fruit de l'arbre à pain, ils n'aiment pas ça.
Les Mutinés de la Bounty, un documentaire de Stéphanie Thomas réalisé par Séverine Cassard. Toutes les histoires particulières sont disponibles sur franceculture.fr et l'appli Radio France.